Chapitre 7. Je rappelle ici la division très évidente du livre de Daniel. La première partie se termine à la fin du chapitre 6. Les communications que cette première partie renferme n'étaient pas faites immédiatement à Daniel, mais à Nebuchadnezzar par un songe, à Belshazzar et à Darius par les choses qui leur sont arrivées et dont Daniel a donné l'explication. Dans la seconde partie du livre, qui commence ici, nous avons les communications faites à Daniel lui-même. Je rappelle aussi que tout le sujet dont s'occupe la prophétie de Daniel, et ce qui sert même de base à tout le livre, ce sont les Juifs. L'ancien peuple de Dieu était en captivité et avait été remplacé, quant au trône du monde, du moins quant au droit à ce trône, par les gentils. Dieu avait eu son trône à Jérusalem, il n'y était plus, alors qu'il y avait été littéralement. Avant la captivité, Dieu avait placé sa gloire dans le temple. Il exerçait le gouvernement, punissait les méchants. C'était un jugement immédiat, la théocratie pure, en rapport avec la royauté. Tout cela avait complètement cessé. Les Juifs, au lieu d'agir comme auraient dû agir ceux qui étaient sous le gouvernement de Dieu, avaient été totalement infidèles. Ils avaient détruit leurs petits-enfants, les brûlant dans le feu à Moloch, et avaient adoré les idoles. La conséquence de cette conduite avait été que Dieu n'avait pu s'identifier avec une nation pareille. Il l'avait rejetée, avait ôté son trône de Jérusalem, et avait confié la domination et l'empire du monde aux gentils, comme on le voit au verset 38 du chapitre 2 de ce livre. Dès lors, le trône était établi parmi les gentils. Nebuchadnezzar avait pris Jérusalem, et le temps des gentils avait commencé. Il y a dans ce sujet deux parties, nous l'avons déjà fait remarquer. D'un côté la responsabilité des gentils, de l'autre les circonstances des Juifs pendant ce temps-là, spécialement celle du résidu fidèle, objet spécial des pensées de Dieu. Au cours de la première partie, nous avons vu les caractères généraux des rois des gentils. Maintenant, nous en venons aux détails beaucoup plus suivis du caractère et de l'histoire des bêtes, particulièrement dans leur relation avec le peuple juif et avec le résidu qui s'attendait à Dieu. Non seulement ces bêtes avaient perdu leur intelligence en refusant d'être soumises à Dieu, mais elles persécutaient son peuple. Aussi, pour développer plus complètement les circonstances du peuple de Dieu, nous avons dans cette partie une histoire plus détaillée de quelques-unes de ces bêtes, et en même temps les circonstances du résidu sous leur domination, ainsi que d'autres détails, comme nous verrons plus tard, sur divers événements qui doivent arriver au peuple saint. Il y a une chose à remarquer. Le caractère de ce livre de Daniel qui, dans la partie prophétique, est aussi celui de l'Apocalypse. C'est-à-dire que rien n'est adressé au peuple de Dieu. Dans les autres prophètes en général, par exemple en Ésaïe, en Jérémie, etc., bien des prophéties concernant les choses à venir nous sont données. Mais le prophète s'adressait alors au peuple de Dieu, parce que ce peuple était encore reconnu. Mais quand le peuple de Dieu n'est plus reconnu du tout, Dieu peut donner à un prophète, à un résidu, à un Daniel, des révélations qui regardent ce peuple, mais le prophète ne s'adresse plus à lui. Eh bien, c'est le caractère du livre de Daniel. Ce dernier ne s'adresse pas du tout aux Juifs. Il se réjouit des communications de Dieu, mais il ne leur en dit pas un mot. Dieu, avons-nous dit, ne reconnaissait plus son peuple, mais il y avait un résidu représenté par Daniel tout seul. Note 1. Sous bien des rapports, Daniel est un type de Christ, comme ayant l'esprit de Christ dans ses sympathies avec le résidu, et comme étant leur représentant devant Dieu. Fin de la note. Dieu ne reconnaissait plus son peuple dans le gouvernement du monde, mais il avait un résidu, et il communiquait aux fidèles qu'il avait choisis le sort de ce résidu et ce qui allait lui arriver. Il en est de même dans la partie prophétique de l'Apocalypse, c'est-à-dire que ce sont des communications faites à Jean, et non pas Jean qui parle aux chrétiens. Seulement, l'Église étant encore en existence, il est ordonné à Jean de lui faire part de ses communications. Un dépôt de certaines vérités, de certains événements, est fait là pour la bénédiction de l'Église dans tous les temps, ici pour les Juifs quand ils viendront à croire. Ce qui est important, c'est que cela suppose que le peuple de Dieu n'est plus reconnu. Et je crois aussi que cela a de la force quant à l'Apocalypse, toujours en parlant de sa partie prophétique. Maintenant, nous allons considérer la seconde partie, ou les 6 derniers chapitres du livre de Daniel dans lesquels la conduite des bêtes ou des diverses puissances des gentils nous est détaillée, ainsi que les circonstances des saints pendant que les bêtes exercent cette domination, puis le jugement de Dieu qui arrive à la fin. Dans le chapitre 7, qui est l'introduction de cette seconde partie, nous trouvons trois visions dont voici les objets. Le fait général est qu'il y aura ces quatre bêtes, mais que la quatrième aura une toute autre importance parce que, quoique les trois premières eussent agi méchamment contre Dieu et contre son peuple, ce sera sous la domination de la quatrième et dernière bête qu'aura lieu la révolte ouverte contre Dieu, soit des Juifs, soit de la chrétienté, soit de la puissance impériale des gentils. Révolte dont le résultat sera une destruction totale de la bête, parce qu'elle se sera élevée d'une manière ouverte contre Dieu, contre son autorité et sa gloire. La première vision, versets 3 à 6, ne donne la description que des trois premières bêtes. La domination leur est, il est vrai, successivement ôtée, mais leur vie est prolongée, elles ne sont pas détruites. La seconde vision, verset 7, est l'histoire détaillée de la quatrième bête dont il avait été fait mention. La troisième vision, verset 13, est l'opposé de tout ce qui précède, c'est-à-dire que la domination est donnée au Fils de l'homme. La formule « Je voyais dans les visions de la nuit » versets 2, 7 et 13 souligne les trois parties distinctes de la vision du prophète. Ensuite vient l'explication de ces choses. Daniel donc prend la parole et dit « Je voyais dans ma vision de nuit, et voici, les quatre vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer, et quatre grandes bêtes montèrent de la mer différentes l'une de l'autre. » Versets 2 et 3. La grande mer signifie constamment, dans le langage prophétique, les masses des peuples. Ainsi, Babylone assise sur plusieurs eaux. Ces grandes eaux sont les peuples qui ne sont pas encore formés en royaume, en empire, en monarchie, mais qui sont reconnus par Dieu comme objets prophétiques. Ce qui est organisé est plutôt la terre. Vous trouverez par exemple la distinction entre la terre et la mer au chapitre 13 de l'Apocalypse, où la première bête sort de la mer, tandis que la seconde sort de la terre. Parce que la première bête était l'empire qui surgissait de la confusion des nations et prenait naissance au milieu des peuples, tandis que la seconde bête se lève quand la première est déjà sur la terre et son empire établi. Ces quatre bêtes sont quatre monarchies. La première bête était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées et qu'elle fût soulevée de terre et mise debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 4. C'est la monarchie babylonienne, la première qui est tout envahie. Le pharaon a voulu faire de même, mais ses deux bras ont été cassés à Carchémish, près de l'Euphrate. Jérémie 46. Nebuchadnezzar fut donc ce lion avec des ailes d'aigle, cette puissance qui envahissait tout. Son empire a duré 70 ans seulement. Darius le Mède a pris le royaume. Babylone est restée une très grande ville, après que son empire lui eût été ôté. Il y eut même plus tard un jugement sur Babylone. Elle fut assiégée et prise. Elle a donc été mise sur ses pieds, comme un homme, soumise et ne s'emparant plus des nations. Elle était devenue une province et n'était plus l'empire de la terre. Et voici une autre, une seconde bête, semblable à un ours, et elle se dressait sur un côté, et elle avait trois côtes dans sa gueule, entre ses dents, et on lui dit ainsi « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Verset 5. C'est l'empire des Perses. Je ne m'y arrête pas, parce que quiconque a étudié ces prophéties sait de quoi il s'agit. La troisième bête était comme un léopard, et elle avait quatre ailes d'oiseau sur son dos, et la bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Verset 6. La seule remarque à faire, c'est qu'il s'agit ici de la monarchie d'Alexandre le Grand. La bête nous est présentée aussi bien sous la forme qu'elle revêtit après la mort de ce prince, lorsque son empire fut divisé en quatre parties, que sous la forme qu'elle avait lorsque cet empire était uni sous une seule puissance. Cette remarque est importante, parce qu'effectivement, deux des parties dans lesquelles il fut divisé ont eu beaucoup plus à faire avec les Juifs que l'empire du temps d'Alexandre lui-même. Elles ont eu des relations constantes avec les Juifs dont le pays formait une portion de l'empire à l'égard de laquelle deux de ses chefs, savoir le roi du Nord et le roi du Midi, chacun de son côté, élevaient des prétentions dont nous verrons le détail au chapitre 11. Daniel a dit en général, verset 3, qu'il y avait quatre bêtes. Il vient de parler de trois. La quatrième est réservée pour une autre vision. Verset 7. Après cela, je vis dans les visions de la nuit, et voici une quatrième bête, effrayante et terrible et extraordinairement puissante, et elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait et écrasait, et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle, et elle avait 10 cornes. Verset 7. Ce qui distinguait particulièrement cette bête, c'est qu'elle avait 10 cornes, 10 rois. Je considérais les cornes, et voici une autre corne, petite, monta au milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle, et voici, il y avait à cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses. Verset 8. Ce n'était pas seulement une puissance agissant comme emportée par ses passions, quand l'occasion s'en présentait, ni un conquérant allant saisir partout ce qu'il pouvait. Il y avait dans les mouvements de cette petite corne une vanterie extraordinaire de l'intelligence, des desseins, des intentions, des conseils, des réflexions. Il y avait des yeux d'homme pénétrants. Il est dit par exemple de l'agneau dans l'Apocalypse qu'il avait 7 yeux, la perfection de la vision et de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il voyait tout. Ici, ce n'était pas la perfection, mais au moins de l'intelligence qui considérait les choses et qui avait des intentions. Ce sont les yeux. Et une bouche proférant de grandes choses. Cela signifie une vanterie extraordinaire qui caractérise particulièrement cette corne. C'est à cause des paroles que cette petite corne proférait que la bête a été détruite. Car cette petite corne, nous le verrons, est ici le sujet principal. C'est elle qui fait tout et qui est cause du jugement de la quatrième bête. La bête a pu être l'instrument employé, mais c'est la petite corne qui, moralement, est tout. Et je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'Ancien des Jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Versets 9 et 10. La séance qui vient de passer sous nos yeux est une séance de jugement. La vraie force du mot employé ici n'est pas « rouler les trônes », mais « les placer ». Voici l'Ancien des Jours qui s'assied pour juger. Des myriades de myriades sont là devant lui. Les livres sont ouverts. Nous n'avons pas encore le Fils de l'homme. C'est l'Ancien des Jours qui juge. Christ était lui-même, sous un autre rapport, l'Ancien des Jours, mais ici, il lui est présenté comme Fils de l'homme. Dans l'Apocalypse, quand Jean regarde, il le voit comme Fils de l'homme avec tous les attributs de l'Ancien des Jours. Apocalypse 1, versets 13 et 14. Mais ici, nous avons proprement l'Ancien des Jours, parce que Christ est considéré comme le Messie, ou plutôt comme loin, donc aussi comme homme, parce que c'était sous ce caractère qu'il était connu des Juifs, et comme héritant des droits de l'homme de la part de Dieu dans ce monde. C'est ce qui fait la différence de l'expression « Messie » d'avec celle de « Fils de l'homme ». J'en ai été frappé tout récemment en lisant l'évangile de Matthieu. En tant qu'oint, il vint comme roi ici-bas. Quand il est venu comme Messie, nous savons tous qu'il a été rejeté. Le Messie a été retranché, est-il dit, et il n'a rien eu. Mais quand Dieu l'établira plus tard, je ne parle pas de sa gloire dans le ciel, parce que c'est une chose déjà accomplie. Quand, dis-je, Dieu l'établira sur son trône, ce ne sera pas seulement comme Messie. Dieu ne rétablit jamais ce qui est gâté, parce que cette manière d'agir serait indigne de lui. Si Satan a gâté son œuvre, Dieu ne se contente pas de raccommoder ce qui est devenu mauvais. Quand la folie de l'homme et la malice de Satan ont détruit quelques bénédictions passagères que Dieu avait présentées à l'homme, ou dans l'homme, alors Dieu établit toujours quelque chose d'infiniment supérieur. On trouve un exemple frappant de cela dans la personne de Jésus-Christ lui-même. L'homme innocent avait été introduit sur la terre. Eh bien, la folie de l'homme a gâté cette innocence. Est-ce que Dieu rétablit l'homme innocent? Non. Il établit son propre Fils, un homme glorieux dans les cieux et sur la terre. Ainsi, Dieu permet que les choses qu'il présente ou confie à l'homme soient gâtées. Ensuite, il établit à leur place quelque chose d'infiniment supérieur, selon son propos arrêté. Eh bien, il en est de même du Messie. Il était présenté comme roi des Juifs. Il était reconnu par la foi comme étant fils de Dieu. Or, comme fils de David, il aurait dû gouverner sur le trône de David s'il avait été reçu. L'homme, être pécheur, n'a pas voulu le recevoir. Mais quand il reviendra, ce ne sera pas comme Messie, ni comme fils de David seulement, qu'il sera reçu. Il a fallu qu'il allât recevoir le royaume des mains de son Père. C'est pourquoi il dit aux femmes, en établissant de nouvelles relations entre Dieu et ses disciples, en vertu de son œuvre et de son ascension auprès du Père, « Ne me touchez pas ». Il fallait qu'il s'en allât pour recevoir le royaume en haut. Ce n'était plus le royaume dont il ne recevait rien ici-bas, mais le règne sur toute chose, non pas seulement comme Messie, mais comme Fils de l'homme. La domination sur toute chose, puisque Dieu a décrété que toute chose lui serait assujettie. C'est pour cela que nous le voyons ici venant avec les nuées des cieux, comme Fils de l'homme. Lorsque Christ s'est présenté aux Juifs comme Messie, et même aux gentils sous Ponce Pilate, Jean 18, verset 37, il a été rejeté. Après quoi Dieu ne l'établit plus seulement comme Messie, mais comme héritier de toutes choses. Comment cela se fait-il? Non point par la volonté de l'homme. Christ a été présenté au bon plaisir de l'homme, mais il n'a trouvé que haine et mépris. Ils l'ont crucifié. Cela sera proclamé par le jugement de Dieu. Il faut donc, quand cette petite corne profère de grandes choses, verset 8, quand toute l'insolence de l'homme s'est manifestée, qu'elle est venue à son comble, il faut alors que les trônes soient placés et que Dieu exerce sa domination. Lorsque la domination confiée à l'homme devient la révolte contre Dieu, il faut bien que Dieu y mette la main, que Dieu place des trônes pour lui, que le jugement s'asseye, que les livres soient ouverts, et que l'homme rende compte à Dieu. Le résultat du jugement de l'Ancien des Jours est de donner le royaume au Fils de l'homme, car il s'agit ici de la puissance et des droits de l'Ancien des Jours. Ce jugement était la démonstration que celui qui avait les droits depuis le commencement jusqu'à la fin, quoiqu'il fût caché, était celui qui donnait la domination aux uns et aux autres. Dieu était caché, pour ainsi dire, pendant le règne des autres bêtes. Néanmoins, sa providence agissait. Les Babyloniens furent remplacés par les Perses, ceux-ci par les Grecs. Tout cela s'est fait, comme cela se fait encore aujourd'hui dans les voies de la providence qui gouverne le monde, parce que l'Ancien des Jours, dont rien pourtant ne peut anéantir les droits, n'était pas encore assis pour exécuter le jugement selon les choses qui étaient faites contre lui. Mais il n'en sera plus ainsi à la fin. Il n'y avait pas encore la révolte ouverte, la bête qui dit « Je veux moi-même être Dieu, et personne d'autre ne sera Dieu. Comme il est dit au prince de Tyr, diras-tu peut-être devant celui qui te tue, je suis Dieu? Ézéchiel 28, verset 9. Ce sera le cas de la quatrième bête, et son jugement sera le jugement de Dieu qui s'exécute contre l'homme dans cet état de révolte et de rébellion. Voici donc ce qui attire l'attention de Daniel. Je vis alors, à cause de la voix des grandes paroles que la corne proférait, je vis jusqu'à ce que la bête fût tuée, et son corps fut détruit, et elle fut livrée pour être brûlée au feu. Verset 11. Il est étonné d'entendre cette corne oser proférer de telles choses en présence de Dieu, des paroles si insolentes, si orgueilleuses au point de dire qu'elle seule, la corne, veut être Dieu. Il est étonné, s'il y a un Dieu, qu'il permette que de telles paroles soient prononcées. Alors il regarde pour voir quel sera le résultat. Je vis jusqu'à ce que la bête fût tuée, et son corps fût détruit, et elle fut livrée pour être brûlée au feu. Voilà le résultat. Puis il ajoute, quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée. C'est-à-dire qu'après que l'Empire eut été ôté à Babylone, elle subsista pendant un certain temps, de même les Perses, etc. Mais la destruction de cette quatrième bête devait être totale. Une prolongation de vie avait été accordée aux autres après la chute de leur empire par le jugement de Dieu, mais ici, le jugement et la destruction totale vont ensemble. Voici maintenant la troisième vision. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici, quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume un royaume qui ne sera pas détruit. Versets 13 et 14. Tel est le royaume qui lui est confié, et dont il se servira pour assujettir toutes choses à Dieu lui-même. Nous en venons maintenant à l'explication donnée au prophète dans les versets 15 à 17. Les visions de ma tête, dit Daniel, m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandai la vérité touchant tout cela. Et il me la dit, et me fit savoir l'interprétation des choses. Ces grandes bêtes, qui sont quatre rois qui surgiront de la terre. Voici une vérité dont il n'avait pas été dit un mot encore. Les saints des lieux très hauts recevront le royaume et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. Verset 18. Ce qui suit donc n'est pas seulement l'histoire de ce qui arrivera par un effet de la providence et par le jugement de Dieu. L'interprétation s'occupe de ce qui regarde le peuple de Dieu, les saints des lieux très hauts. Nous verrons que les explications données dans des prophéties semblables ou dans des paraboles vont toujours au-delà des choses que ces prophéties elles-mêmes contiennent. Ainsi, voici la grande vérité qui est ajoutée ici. Les saints des lieux très hauts obtiendront le royaume au siècle des siècles. La thèse générale du chapitre, c'est qu'il y a quatre grandes bêtes qui s'élèveront sur la terre et qui seront finalement jugées de Dieu, et l'autre vérité, ajoutée dans l'explication, c'est que les saints des lieux très hauts recevront le royaume et que les bêtes seront mises de côté. Alors, je désirais de savoir la vérité touchant la quatrième bête qui était différente d'elles toutes, extraordinairement terrible. Ses dents étaient de fer et ses ongles d'airain. Elle dévorait, écrasait et foulait avec ses pieds ce qui restait. Verset 19. Le désir du prophète n'était pas seulement pour sa satisfaction, mais pour que nous comprissions la fin de la bête et en même temps tous les principes de conduite qui caractérisent ses pensées à elle. Elle veut tout dominer, coûte que coûte. C'est précisément ce qu'a fait la quatrième bête et ce qu'elle fait encore. C'est l'Europe, au moins occidentale. Et touchant les dix cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre qui montait, et devant laquelle trois étaient tombés, cette corne qui avait des yeux et une bouche proférant de grandes choses, et dont l'aspect était plus grand que celui des autres. Verset 20. La corne avait de l'intelligence, des desseins. Trois de ces cornes, royaumes, tombent devant cette petite corne, puis cette petite corne, petite au commencement, devient plus grande en apparence que ses compagnes, c'est-à-dire qu'elle grandit et que finalement c'est elle qui domine au milieu des cornes. Vous allez voir dans les versets qui suivent que cette corne envahit, pour ainsi dire, toute la puissance de la bête, ou du moins lui prête son caractère. C'est elle qui a la domination. C'est la conduite de la petite corne qui décide de celle de la bête et qui en est la source. Aussi est-elle, de cette manière, la cause de sa destruction. Je regardais, et cette corne fit la guerre contre les saints et prévalut contre eux jusqu'à ce que l'ancien des jours vînt et que le jugement fût donné aux saints des lieux très hauts et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Versets 21 et 22. Il dit ainsi, « La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes et dévorera toute la terre et la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les dix cornes, ce sont dix rois qui surgiront du royaume. Et un autre surgira après eux, et il sera différent des premiers, et il abattra trois rois. » Versets 23 et 24. Cette corne, donc, ne sera pas un royaume ordinaire, mais une puissance spéciale qui s'élèvera au milieu des autres. Ensuite, elle fait trois choses. Premièrement, elle profère des paroles contre Dieu qui est là-haut, qui domine sur les cieux et la terre. Secondement, elle consume les saints des lieux très hauts, ceux qui reconnaissent Dieu dans les hauts lieux. Aussi fait-elle la guerre aux Juifs fidèles, qui sont de retour dans leur pays. Troisièmement, non seulement elle détruit les saints, mais elle pense pouvoir changer les saisons, c'est-à-dire certains jours fériés qui reviennent d'année en année et qui constituent des époques parmi les Juifs, comme la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, etc., et la loi elle-même. Ils seront livrés entre ses mains, savoir les temps et la loi, jusqu'à un certain temps. Ce ne sera pas pour toujours. Je la vois apostate, abandonnant Dieu dans sa puissance. Je la trouve faisant la guerre aux saints qui reconnaissent Dieu, et enfin mettant de côté complètement les ordonnances judaïques. C'est là le caractère final que porte cette bête sous l'influence de la petite corne. Nous aurons encore à la considérer, et il est important de suivre de près cette partie du livre, vu le caractère de cette petite corne et la place qu'elle tient dans les révélations de Dieu. Mais enfin, quelles que soient ses prétentions, le jugement viendra et on lui ôtera la domination. Versets 23 à 26. Nous désirons maintenant attirer votre attention sur ceci. Nous avons vu en général, dans la partie prophétique de ce chapitre, en contraste avec l'interprétation de la prophétie, la bête détruite est livrée au feu, verset 11. Tandis que, dans l'interprétation, l'Esprit de Dieu est entièrement occupé de la petite corne. Le jugement se tiendra et on ôtera la domination à cette petite corne, verset 26. Dans l'Apocalypse, les dix cornes donnent leur puissance à la bête, Apocalypse 17, verset 13. Mais cette petite corne domine moralement la bête, et par là même toutes les autres cornes, par son intelligence et son influence, en sorte que l'Esprit de Dieu parle d'elle comme étant le personnage dont la prophétie va s'occuper. C'est bien la bête, puisque la petite corne possède toute la puissance de la bête et que sa conduite la caractérise. Car comme c'est la corne qui blasphème, persécute et change les saisons et la loi, c'est aussi sa domination à elle qui lui est ôtée. Remarquez encore que, quoi que la petite corne fît devant les yeux du prophète, versets 20 et 21, les autres cornes n'avaient pas cessé d'exister. Il y en avait encore sept après qu'elle en avait abattu trois, en sorte que nous ne voyons pas dans cette petite corne tout l'empire de la quatrième bête géographiquement. Cette petite corne est moralement toute la bête, mais ne l'est pas dans les limites géographiques. Sept des cornes qui existaient auparavant subsistent encore. Nous avons ainsi l'état de la bête représenté par une corne particulière qui est toute différente des autres. Elle est en apparence petite, se lève petite, mais est bientôt plus grande que ses compagnes. Elle est hardie, c'est elle qui frappe, persécute, change les temps. C'est elle qui représente complètement la bête devant Dieu quant au jugement. Mais en même temps, quant à la puissance personnelle et matérielle, il y a, en d'autres endroits, sept cornes, subsistant toutefois dans l'étendue de l'Empire romain, et qui sont ainsi matériellement les instruments du mal moral de la petite corne. Cela nous donne un détail sur l'état des choses. Nous trouvons une corne qui fait le mal, et la grande masse de l'Empire divisée en sept parties, donnant la puissance à la partie qui est grande. C'est comme s'il y avait un homme avec de grands desseins et six autres qui l'appuient. Ce serait lui qui les représenterait tous. On pourrait nommer un homme qui nous donne l'idée de la chose. Napoléon Ier, par exemple, avait avec lui l'Espagne, la Belgique et telle autre puissance qui le suivait, mais qui n'étaient rien que des auxiliaires. C'est lui qui imprimait son caractère sur tout ce qui se faisait. Il en sera ainsi de cette petite corne. Son caractère sera empreint sur tout ce qui se fait, et l'on pourrait ne parler que d'elle, et compter les autres cornes pour rien dans la description de l'état moral des choses devant Dieu. Leur autorité existera, en un certain sens, dans les limites de leur royaume, mais leur puissance sera donnée à celle qui s'élèvera contre Dieu et les saints. Tel est le résumé de l'histoire que ce chapitre nous présente. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet pour le moment. Les chapitres 13 et 17 de l'Apocalypse nous présentent aussi cette bête. Dans le chapitre 13, nous la voyons assise sur le trône de Satan, tandis qu'une autre bête qui aide à glorifier la première sur son trône exerce la puissance de Satan. Dans le chapitre 17, c'est toujours la même bête, mais elle nous est présentée dans ses rapports avec Babylone, la grande prostituée. Ici, au chapitre 7 de Daniel, nous avons la bête elle-même et la guerre qu'elle fait contre Dieu. Nous l'avons dans ses rapports avec les saints des lieux très hauts et avec le peuple juif. Nous reprendrons ces choses plus tard. Il y a, depuis le verset 36 jusqu'à la fin du verset 39 du chapitre 11 de Daniel, un roi en Judée agissant plus particulièrement en Orient dans le pays des Juifs ou pays de beauté. Zacharie 11 nous donne les traits spéciaux, que je n'examinerai pas ici, d'un pasteur insensé qui se trouvera en Judée et opprimera le peuple, ce qui, je le pense, se rapporte à la seconde bête d'Apocalypse 13. Au chapitre 2 de la deuxième épître aux Thessaloniciens, cette puissance, envisagée sous un tout autre aspect, il est vrai, se présente en rapport avec l'apostasie de la chrétienté perverse, tandis qu'au chapitre 11 de Daniel, nous la voyons dans son iniquité comme roi en Palestine, en rapport avec l'apostasie des Juifs. Ici, nous la trouvons surgissant d'entre les gentils, agissant contre les saints des lieux très hauts et les Juifs fidèles. Chapitre 7, verset 25. Je ne parle pas ici du chapitre 8, parce que c'est ma conviction que la petite corne du chapitre 8 n'est pas la même que celle du chapitre 7. Il y a des personnes qui ont étudié ce sujet, qui ne pensent pas comme moi à cet égard. Mais j'ai la conviction que c'est une autre puissance qui se trouvera là, spécialement en rapport avec les Juifs, qui envahira ces pays en Orient, mais qui n'est pas la petite corne dont nous parlons. Il y a encore un autre passage qu'il nous faudra examiner au sujet de cette petite corne. Ce sont les derniers versets du chapitre 9 de Daniel, en rapport avec la désolation de Jérusalem. Je l'indique seulement ici pour que la liaison de ces différents passages soit complète. En examinant ces chapitres de Daniel, je n'ai pas la prétention d'expliquer tout ce qui s'y trouve. Ma prétention se borne à communiquer ce que Dieu m'a donné de comprendre là-dessus. Cela pourra nous aider à aller plus loin dans l'examen de ces prophéties. La seule remarque que je ferai en terminant, c'est de signaler ce que nous avons vu dans Daniel lui-même, son étonnement à la voix de cette petite corne, c'est-à-dire sa stupéfaction à la vue de l'insolence et de la rébellion de l'homme contre Dieu. À la fin, l'homme s'arrogera, pour faire la guerre à Dieu, la puissance, comme si elle était en lui au lieu d'avoir sa source en Dieu. De même, la religion de l'homme parmi les Juifs avait osé rejeter et livrer à la mort le Messie. Mais la puissance de l'homme, se montrant dans une apostasie complète et s'étant livrée à Satan, est l'instrument de la guerre que celui-ci fait à Dieu et à son nom. Ce n'est pas simplement l'iniquité, mais la révolte ouverte du péché comme principe. Quelque forme que l'homme revête dans ses rapports avec Dieu, cette bête se donnera la peine, pour ainsi dire, de réunir en elle-même tous ses caractères pour lui faire opposition. S'agit-il de Dieu lui-même? Elle se moque de lui et s'élève contre lui. S'agit-il des saints? Elle les persécute et les détruit. Son dessein est de tout renverser et de s'établir elle-même sur ses ruines. Satan lui donne son trône après avoir été chassé du ciel 3 ans et demi avant le jugement. Quand, sachant qu'il n'a plus que peu de temps, il agit en grande fureur, donnant aux méchants pour s'y établir son trône sur la terre. En rapport avec les Juifs, il se met à changer la loi et ses ordonnances. En même temps, nous voyons Satan agissant directement sur l'esprit de l'homme par des miracles. Il l'anime et le pousse à faire selon sa volonté et à se mettre en avant comme chef universel, détruisant ainsi toute relation avec Dieu. C'est aussi ce qui nous est présenté en 2 Thessaloniciens 2, la révolte contre Dieu, mais telle qu'il a été connu dans le christianisme. Cette révolte est basée sur l'apostasie. Alors l'homme de péché s'élève et se présente comme Dieu dans le temple de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ayant été séduits par les manifestations mensongères de la puissance de l'ennemi. C'est ici donc que se réalise ce que nous trouvons au chapitre 13 de l'Apocalypse, savoir que Satan lui-même donne son trône, et c'est alors, je crois, que ce caractère horrible de pleine révolte se manifeste publiquement sous tous les rapports. Le mal est sans doute à l'œuvre bien auparavant, par des principes et des mystères, mais quand le trône de Satan est érigé ici-bas, comme il le sera au moins 3 ans et demi avant la fin, et quand le jugement ayant été exécuté sur lui dans le ciel, il ne peut plus tromper sous des apparences célestes, les saints n'ayant plus à livrer des combats contre les lieux célestes, il donne son trône à la bête. C'est une révolte ouverte, et cette révolte est contre Dieu. Le méchant, par excellence, est sur la scène. Le méchant sera révélé. Dieu le détruira. La bête, à la puissance de laquelle Satan aura prêté toutes ses énergies, sera détruite. Alors, le trône sera donné au Fils de l'homme. Il est très important, par la grâce de Dieu, de voir où le train de ce monde aboutit. Et soyez certains qu'il n'est pas besoin que l'homme soit abruti extérieurement pour qu'il serve Satan ou pour que ces choses arrivent. Car cette petite corne avait des yeux d'homme, toute sa capacité, toute sa clairvoyance. Toutes les facultés de l'homme sont en perfection dans cet homme. C'est ce qui le distingue. Néanmoins, il rejette Dieu. Sa conscience n'est pas du tout en exercice. Ce qui lui manque totalement, c'est le sentiment de sa responsabilité envers Dieu. Cette dernière est complètement niée, et toute trace d'amour est étouffée chez lui par la soif de s'élever. C'est le cas d'Adam, qui a voulu être comme Dieu, en mettant Dieu de côté. Alors le jugement sera amené, et Christ sera manifesté dans toute sa gloire, et c'est là ce que nous attendons quand on nous parle d'améliorer les choses d'ici-bas. Grâce à Dieu, nous avons, comme chrétiens, une meilleure portion, une part céleste qui consiste à être comme Christ et avec Christ pour toujours.